Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant une heure pour un nouveau numéro de l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Ravi de vous retrouver. Je salue particulièrement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM depuis Bamako. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission. L'Afrique du Sud propose un plan pour régler le conflit israélo-palestinien. La Russie et le Burkina Faso conviennent de renforcer leurs liens en matière de défense. Et l'Égypte qui entre dans le top 5 des pays plébiscités par les touristes russes. Le chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny a estimé dans une interview que le conflit ukrainien était dans une impasse. Le chef d'un parti politique français reviendra sur ses déclarations. La journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre, c'était le 6 novembre. Un philosophe camerounais nous livrera ses impressions à l'occasion de cette date. L'exposition internationale Russie a ouvert ses portes à Moscou. Un homme d'affaires éthiopien qui était présent nous a confié ses impressions et présenté dans quel domaine la Russie pourrait aider ce pays africain. La 34e édition du Tour international du Faso s'est achevée le 5 novembre dernier à Ouagadougou. Le vainqueur nous livrera ses impressions à notre micro. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a énoncé un plan en 7 points en vue de rétablir la paix entre Israël et la Palestine après un mois d'hostilités qui ont causé des milliers de morts des deux côtés. Pretoria propose les actions suivantes pour mettre un terme aux souffrances des populations civiles. Tout d'abord, un cessez-le-feu immédiat. Ensuite, Pretoria préconise l'ouverture de couloirs humanitaires afin que l'aide et tous les services de base parviennent à tous ceux qui en ont besoin. Toutes les parties devront faire preuve de retenue, s'abstenir d'inciter à cette guerre manifestement injuste et d'éviter de causer des souffrances humaines, notamment en arrêtant la fourniture d'armes à toutes les parties. Tous les otages civils devront être relâchés. Pretoria préconise par ailleurs de créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, tout comme cela a été fait en Afrique en réaction à une suggestion faite d'utiliser la bombe atomique. Il faudra, selon le plan de la diplomatie sud-africaine, reprendre le dialogue qui devra être dirigé et mené par les Palestiniens et les Israéliens eux-mêmes avec l'aide des Nations Unies. Enfin, Pretoria préconise le déploiement d'une force de réaction rapide de l'ONU en Palestine qui sera chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu et de protéger les civils. Pour rappel, suite à l'escalade du conflit israélo-palestinien, près de 12 000 personnes ont déjà été tuées, dont plus de 10 000 du côté palestinien. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s'est entretenu avec son homologue burkinabé, le général de brigade Kassoum Koulibaly à Moscou, rapporte le ministère russe de la Défense. Monsieur Choïgou a salué la dynamique positive des relations russo-burkinabé, fondée sur les principes du respect mutuel des intérêts de chacun. Le ministre Koulibaly a quant à lui transmis les salutations de son chef d'État, le capitaine de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Il a déclaré que les négociations que Ouagadougou mène actuellement avec Moscou constituent une véritable phase pratique. Le ministre russe de la Défense a signalé que l'entrevue avec le général Koulibaly doit être considérée comme une nouvelle étape dans le développement des relations amicales entre les deux pays. L'Égypte a fait son entrée dans le top 5 des destinations préférées des Russes. Selon les statistiques des services douaniers du Service fédéral russe de sécurité, le FSB, le nombre de voyages des Russes dans ce pays d'Afrique, tout motif de déplacement confondu, a augmenté de 50% au cours des 9 premiers mois de l'année 2023, soit près de 919 000 personnes. Pour la période de janvier à septembre de cette année, les Russes ont effectué 20% de voyages en plus à l'étranger par rapport à l'année précédente selon l'instance. D'après les données, les Russes ont le plus souvent voyagé au cours des 9 premiers mois de l'année 2023 en Abkhazie, en Turquie et au Kazakhstan. L'Égypte a été devancée par les Émirats arabes unis qui occupent la 4e place de ce classement. Enfin, on apprend de l'instance que le pays des pharaons a accueilli exactement 739 000 vacanciers originaires de Russie lors des 9 premiers mois de l'année 2023. Ils étaient 490 000 l'année dernière. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Avec l'escalade du conflit israélo-palestinien, le conflit en Ukraine a disparu des gros titres des médias occidentaux. La fameuse contre-offensive ukrainienne n'a pas obtenu les résultats escomptés. Récemment, Valery Zaloujny, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, en a fait le bilan lors d'une interview pour The Economist. S'il n'a pas ouvertement admis l'échec de cette opération militaire, il a reconnu que l'armée ukrainienne faisait face à de nombreuses difficultés sur le front et qu'elle se trouvait dans une impasse. Les déclarations du chef de l'armée ukrainienne n'ont pas plu au président du pays, Volodymyr Zelensky. Lors d'une conférence de presse conjointe à Kiev avec la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le leader ukrainien refuse de qualifier la situation d'impasse. Il a estimé, au contraire, que la situation pouvait être inversée sur le front avec l'aide des avions de combat F-16 que certains pays occidentaux ont accepté de fournir à Kiev. Toutefois, en Occident, certains ne partagent pas le même enthousiasme que le président ukrainien. C'est le cas de l'homme politique français Florian Philippot, président du parti politique Les Patriotes. Il a estimé sur les réseaux sociaux que Zelensky et l'OTAN s'étaient terminés et qu'il était nécessaire de s'asseoir à la table des négociations. Il a ajouté que l'Occident devait se préparer à une humiliation face à l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Au micro de Spoutnik Afrique, Florian Philippot est revenu sur ses récentes déclarations. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Valery Zaloujny, le chef de l'armée ukrainienne, a avoué dans les colonnes de The Economist que, selon les manuels de l'OTAN, son armée devrait déjà être en Crimée, que le conflit se trouvait dans une impasse positionnelle. Pourquoi, selon vous, utilise-t-il seulement maintenant cette rhétorique? Et pourquoi n'a-t-il pas ouvertement admis que la contre-offensive était un échec?
Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles le commandant en chef des armées ukrainiennes n'avoue que maintenant l'échec de la contre-offensive. D'abord, parce que le projecteur médiatique est parti au Proche-Orient avec la crise Israël-Gaza. Et on voit que beaucoup d'acteurs commencent à dire des vérités maintenant, seulement maintenant, à un moment où il y a moins de caméras, moins d'attention médiatique. Et ça, je le constate, et je crois que c'est une raison importante. Deuxièmement, il y a une raison probablement interne. Zelensky est manifestement de plus en plus contesté à l'intérieur de l'Ukraine, affaibli, et donc des acteurs importants doivent commencer à vouloir placer leur pion et à dire des choses qui vont affaiblir encore plus Zelensky, parce que ce qu'il a sorti, évidemment, affaiblit encore plus Zelensky. Et c'est évidemment calculé. Donc moi, je vois ces deux raisons principales.
Vous avez déclaré sur les réseaux sociaux que l'Occident devait se préparer à une humiliation face à l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Comment cette prise de conscience pourra-t-elle se faire chez les Occidentaux, selon vous?
Oui, je reprenais le terme humiliation d'un article du Télégraphe de septembre dernier, qui titrait en disant « Il faut que l'Occident, suite à l'échec de la contre-offensive ukrainienne, se prépare à l'humiliation ». Oui, en réalité, cette humiliation pouvait être évitée. Moi, ça fait 18 mois que je dis, depuis le début, que je dis qu'il ne faut pas s'entêter sur cette affaire et qu'il faut discuter intelligemment avec la Russie et qu'il faut arrêter d'armer l'Ukraine et de lui envoyer de l'argent, que ça ne sert à rien et que ça finira en catastrophe. Bon, ben on y est. Maintenant, je vois toujours les choses positivement. C'est-à-dire que oui, il y aura des dirigeants politiques humiliés. Macron sera humilié, Scholz, Meloni, etc. seront humiliés. Bon, et Biden. Mais nous devons en profiter pour essayer de remettre nos pays sur de meilleurs rails. Voilà, faire en sorte qu'ils sortent de cette folie collective, de cette impasse et de ce cul-de-sac, et qu'ils aillent vers une nouvelle génération de relations avec la Russie, avec les BRICS en général, fondées sur le dialogue, la compréhension, le respect. Je ne peux que souhaiter cela, et je travaille à cela en tout cas, c'est évident, et mon mouvement Les Patriotes travaille à cela depuis le départ.
Vous avez également affirmé que Zelensky et l'OTAN s'étaient terminés, qu'il fallait arrêter le carnage et s'asseoir à la table des négociations. Un média ukrainien a estimé que suite aux révélations de Zaloujny, ce dernier pourrait être un concurrent sérieux de Volodymyr Zelensky pour la prochaine élection présidentielle. Selon vous, les jours de Zelensky sont-ils comptés? Et l'alternative Zaloujny est-elle crédible selon vous?
La suite ne pourra pas se faire avec Zelensky, qui est manifestement, selon ses propres conseillers, dans une dérive de plus en plus folle, entêté, suicidaire, avec ses propres troupes. Voilà, donc je suis persuadé que l'après ne pourra pas se faire avec un personnage aussi désorienté et hystérique. Peut-être Zaloujny, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne connais pas suffisamment la vie ukrainienne interne pour vous répondre. En tout cas, il semble avoir dit des choses de bon sens, c'est déjà une bonne chose, un premier pas. Il faudra que du côté des Ukrainiens, il y ait des autorités sages, intelligentes, ouvertes au dialogue. Et que dans notre pays aussi, en France et dans les autres pays, également, on sort de l'idéologie, qu'on comprenne que l'OTAN nous traîne toujours vers le pire et vers la guerre, et que la France doit le comprendre, et moi je milite pour la sortie de l'OTAN. Donc il va falloir, si vous voulez, que pour la suite, on ait une nouvelle génération de dirigeants, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus pragmatiques, et aussi beaucoup plus respectueux de leur pays. Des dirigeants français qui respectent la France, des dirigeants ukrainiens qui respectent l'Ukraine, etc. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça ce qui doit présider à la suite.
Avec la nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient, le conflit ukrainien disparaît progressivement des radars médiatiques. L'Occident est-il en train de faire diversion pour vous ?
Ben, il est évident que ça arrange bien les pays occidentaux qu'on ne parle plus de l'Ukraine, parce que pour deux raisons. D'abord, ça permet de masquer aux opinions publiques l'échec total de la contre-offensive en cours et donc le gaspillage incroyable de temps, d'argent, d'armes dans cette affaire. Et si les opinions publiques réalisent à quel point on a gaspillé des milliards, des vies humaines aussi ukrainiennes, pour rien, en les forçant à cette boucherie, et puis du temps pour contre la paix, alors les opinions publiques pourraient être très en colère. Donc il est évident que les gouvernements occidentaux ont plutôt intérêt à ce qu'on ne parle pas trop de l'Ukraine en ce moment. Deuxièmement, ça peut aussi les arranger, parce que s'il y a moins de pression, alors ils seront moins enclins à envoyer des armes et envoyer de l'argent, comme le réclame Zelensky. S'ils envoyaient des armes et de l'argent, c'est parce qu'il y avait une pression médiatique très forte. S'il n'y a plus de pression médiatique parce qu'elle est partie au Proche-Orient, alors on n'envoie plus l'arme, on n'envoie plus l'argent, et finalement ça les arrange. Voilà. Bon, écoutez, tant mieux. Je vais vous dire, à la limite, peu importe les raisons, il faut que la pression diminue, il faut qu'on sorte de ce cycle infernal et qu'on aille vers, je l'ai dit, vers la négociation.
Vladimir Poutine a récemment déclaré que ceux qui ont appelé à la défaite militaire de la Russie chantent maintenant une autre chanson. Quelle est votre réaction face aux propos du président russe ?
Il est évident que l'ambiance a changé, y compris sur les plateaux de télévision français. Il y a quelques mois, des pseudo-experts expliquaient à la télévision que Poutine était au bord de la mort, qu'il avait 18 cancers, qu'il était très isolé en Russie et dans le monde, que l'armée russe était au bord de la défaite. Bon, aujourd'hui, on nous dit c'est l'Ukraine qui est au bord de la défaite. Poutine n'est pas isolé. On voit bien sur la scène internationale la puissance, la montée en puissance des BRICS. On voit bien dans le conflit au Proche-Orient qu'il n'est d'ailleurs pas isolé non plus. Donc j'imagine que du côté de Vladimir Poutine, tout ça doit faire un peu sourire. Bon, bah écoutez, moi ça me réjouit pas pour mon pays parce que encore une fois c'est terrible d'avoir gâché autant de temps et de crédibilité. Mais espérons demain qu'on pourra de nouveau discuter avec la Russie. C'est tout ce qu'il faut souhaiter et qu'on reparte sur un peu plus de sérénité et de sagesse.
On a également des farceurs russes qui ont piégé la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Elle a reconnu que la contre-offensive ukrainienne n'avait pas apporté les résultats attendus et que de nombreux États sont fatigués du conflit. Elle a ajouté que l'on pourrait être prêt de se retrouver à un point où il faudrait se rendre à l'évidence qu'il faudra trouver une issue au conflit. Pourquoi cette prise de conscience intervient seulement maintenant chez les dirigeants occidentaux ?
Mais moi, je constate que Giorgia Meloni a dit la vérité, mais en privé. Effectivement, elle a reconnu, croyant parler en privé au téléphone, que la contre-offensive était un échec, qu'elle ne donnait pas ce qui était attendu, et qu'il fallait maintenant trouver une issue. Bon, bah, c'est très bien, ça fait plus de 18 mois que je le dis. Mais je constate qu'elle ne le dit toujours pas en public. Donc en fait, les dirigeants occidentaux semblent avoir compris les choses, mais sont terrorisés à l'idée de le dire publiquement. Et ils le disent, ils le reconnaissent en privé, ou ce qu'ils croient être en privé. Ça n'est pas très courageux, ça n'est surtout pas très efficace, parce que si nous avions une Mélanie, un Macron et d'autres qui reconnaissaient publiquement que il faut arrêter et qu'il faut passer à une autre issue, alors on pourrait avancer. Donc moi j'attends la phase suivante, la phase où ils vont maintenant le reconnaître publiquement. Voilà. Mais on n'y est pas encore. En tout cas, je remarque qu'ils ont été très lents à la détente. Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre, parce qu'ils sont complètement englués dans l'idéologie et dans la soumission aux États-Unis et à l'OTAN. C'est ça le problème. Voilà. Ils ont des œillères. Ils sont incapables de comprendre et de voir la réalité parce qu'ils sont trop soumis. C'est ça le problème. Meloni y compris.
C'était Florian Philippot, homme politique français, président du parti politique Les Patriotes pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur la récente interview du chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny et a estimé qu'il fallait arrêter d'armer l'Ukraine et commencer à entamer des discussions sérieuses avec la Russie. Enfin, selon lui, les jours de Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine sont comptés. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. La journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre, c'était le 6 novembre. Instaurée par l'ONU en 2001, elle vise à alerter sur les conséquences catastrophiques des conflits armés pour l'environnement et à promouvoir des solutions. Si les pertes humaines à l'occasion de ces hostilités sont prises en compte, les conséquences environnementales de ces conflits sont souvent oubliées. Et pourtant, certaines régions dans le monde portent encore aujourd'hui les stigmates des conflits passés. C'est le cas en ex-Yougoslavie et en Irak, où des obus à uranium appauvri ont été utilisés et ont contaminé les sols. Des cas de cancer continuent d'être détectés aujourd'hui sur les populations qui vivent dans ces régions. Les conflits actuels en Ukraine et au Moyen-Orient subissent également les mêmes effets. Les Britanniques ont expédié à l'Ukraine ces mêmes munitions à uranium appauvri sans se soucier des conséquences futures. Nous en avions parlé dans une précédente émission. C'est également le cas du conflit israélo-palestinien dans lequel des bombes au phosphore ont été utilisées dans la bande de Gaza. Au micro de Spoutnik Afrique, l'économiste, écrivain et philosophe camerounais Yamb Ntimba nous a livré ses impressions à l'occasion de cette date. Le 6 novembre, c'est la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. L'Afrique reste malheureusement le théâtre de nombreux conflits. Comment ceci, selon vous, affecte-t-il la population d'animaux rares et la flore du continent ?
Les chercheurs ont remarqué que de nombreuses populations d'oiseaux, des populations de mammifères et que même des populations dans certaines zones qui sont des populations vivant sur les côtes, par exemple les bords de lacs ou des côtes de certaines mers, certains océans, avaient connu des perturbations importantes du fait justement des conflits armés qui sévissent en Afrique. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui documentées et ce sont des choses sur lesquelles la jeunesse africaine s'attarde de façon importante et espère qu'elles pourront servir dans des plaidoyers auprès des leaders politiques et auprès d'un certain nombre de leaders sociaux pour que l'attitude extrémiste, l'attitude extrémiste d'un certain nombre de dirigeants de l'opposition ou d'un certain nombre de rebelles ou encore l'attitude instrumentalisable, influençable, malléable d'un certain nombre de leaders de l'opposition ou de rebelles qui sont instrumentalisés par les forces internationales et pire, l'attitude de rigidité d'un certain nombre de dirigeants africains en poste du fait peut-être de certain nombre de connivences avec certains intérêts internationaux ou simplement de par leur propre personnalité et de par leurs propres intérêts, et bien que tout cela pourra servir à toucher tous ces gens, à les changer afin qu'ils aient une attitude un peu plus conciliante, un peu plus dans le sens du compromis pour éviter des conflits tels qu'il y en a en Afrique aujourd'hui où on compte cette année plusieurs on parle de près d'une trentaine de foyers de tension répertoriés depuis le début de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui indique que nous avons pratiquement un conflit par million de kilomètres carrés. C'est inacceptable, c'est énorme. Et cela représente des centaines de milliers de morts sur le continent, ce qui est déplorable. Mais sur l'environnement, relativement aux populations d'animaux, eh bien, on constate que non seulement ces animaux vont servir à nourrir beaucoup de groupes rebelles qui sont dans les forêts, les savanes, les déserts ou les montagnes ou les bordures de mer, eh bien, en même temps, ça va servir aussi à nourrir les armées et il n'y a plus de contrôle pour les espèces rares, pour les espèces en voie d'extinction, pour les espèces protégées. Et nous ne savons pas aujourd'hui s'il n'y en a pas éventuellement qui ont disparu sans qu'on s'en rende compte. L'utilisation même d'un certain nombre d'armes pendant ces conflits-là peut effectivement conduire à l'extinction d'un certain nombre d'espèces ou aider à la prolifération d'autres espèces nuisibles qui vont donc détruire l'écosystème, les écosystèmes de façon durable.
Comment le grand nombre de réfugiés fuyant les zones de conflit et les organisations terroristes Affecte-t-il l'environnement ? Ils ont aussi besoin de manger et de se chauffer, n'est-ce pas ?
Les camps de réfugiés, les déplacements de population, les déplacements forcés de population sont un problème très important. Pas seulement pour les ONG ou pour les États qui essaient de les soutenir, de les protéger ou d'en prendre soin, mais particulièrement pour la nature qui subit une pression brutale et trop importante de façon très rapide, dans un laps de temps très court. Lorsque vous aviez, par exemple, on a remarqué dans l'est du Cameroun, lorsqu'on a eu des dizaines de milliers de Centrafricains qui affluaient vers le Cameroun, on a constaté qu'effectivement, la forêt, mais surtout la savane dans le nord de la région du nord, de l'est au Cameroun, avait énormément souffert. Parce que les personnes les réfugiés, évidemment, ont besoin de bois pour se chauffer, donc ils coupent tout le bois qu'il y a sur leur chemin. Ils ont besoin de se nourrir, donc au-delà des champs qu'ils traversent, il y a tout ce qui peut être produit, tout ce qui peut être fruit ou qui peut être cueilli ou qui peut être coupé quand il concerne les tubercules ou d'autres choses. Et très souvent, après le passage des réfugiés, vous avez le sentiment qu'il y a eu comme si un troupeau d'éléphants était passé quelque part et avait tout dévasté. Ce sont des choses auxquels il faudrait faire attention et qu'il faut intégrer aujourd'hui dans les outils, non seulement des États, mais également des organisations sous-régionales et de l'ONU, du système des Nations Unies, parce que la destruction des écosystèmes par les réfugiés, par les camps de réfugiés, est tout simplement quelque chose de considérable, quelque chose d'important et quelque chose de notable. Vous remarquerez que lorsqu'un camp, par exemple, vous avez des camps dans le nord du Cameroun qui se chiffrent à des dizaines de milliers de personnes. Il y a même des camps qui ont atteint 300 000 personnes. Vous avez des camps dans le sud du Soudan qui ont atteint 300 000 personnes, dans l'est du Tchad qui avait atteint des centaines de milliers de personnes. Vous avez des camps au Mali qui avaient atteint des dizaines de milliers de personnes. Donc tout cela exerce une très forte pression sur la nature et détruit le fragile équilibre de certains écosystèmes. Mais il faut bien que les réfugiés fuient les combats et il faut bien qu'ils puissent trouver du bois pour non seulement se chauffer dans les zones comme par exemple l'est du Congo, où il peut faire très froid. Je rappelle, dans l'est du Congo, il neige, on fait du ski. Et donc, il peut faire extrêmement froid et ces gens ont besoin de bois pour se réchauffer. Et on a besoin de nourriture dont on fait la chasse et la cueillette. Et cela exerce beaucoup de pression sur les populations d'animaux, mais également sur la flore dans ces zones-là. Et l'organisation générale, par exemple, des migrations des animaux, peut se trouver affecté tout simplement à cause de cela. C'est des choses qu'on a remarquées, par exemple, dans le nord du Mozambique, du fait justement de cette étrange guérilla qui s'est déclarée au même moment qu'on annonçait l'exploitation du pétrole dans le nord du Mozambique, qui ne connaissait pas avant tout ce qui est lié au djihad, au terrorisme, etc. Donc, ce sont des choses très importantes qu'il faut prendre en considération et sur lesquelles des plaidoyers, des actions doivent être menées très rapidement.
Les conflits sont souvent liés aux gisements de minerais dont l'Afrique est si riche. Dans quelle mesure peut-on attendre des groupes armés qui prennent le contrôle de ces gisements, qu'ils respectent les normes environnementales ?
L'un des plus grands problèmes en Afrique, c'est justement cette exploitation désordonnée, incontrôlée et totalement... c'est fait en dehors de tout contrôle institutionnel, de tout contrôle des États, de ces minerais, de ces gisements. Il faut savoir que quand vous identifiez un conflit armé en Afrique, sachez que c'est toujours lié à un gisement de minerais, c'est toujours lié aux ressources naturelles, toujours. Les problèmes en Afrique, les bruits de bottes en Afrique, les coups de feu en Afrique sont toujours liés aux minerais et liés donc à la prédation internationale qui a besoin de s'approvisionner de façon quasi gratuite. Et il faut effectivement, vous faites bien de poser cette question, personne ne respecte les normes environnementales, même quand c'est fait par des entreprises publiques. lorsque, dans le cas du néocolonialisme, suite à la colonisation, certains s'installent. Quand vous allez aujourd'hui, l'un des plus grands scandales liés à ces conflits, c'est par exemple les mines d'uranium du Niger exploitées par les Français. Les taux de radiation sont plusieurs fois plus élevés que les radiations à Tchernobyl. C'est pour vous dire, et c'est à ciel ouvert. Les déchets sont jetés à ciel ouvert, ce n'est protégé par personne. Les populations subissent ça. Et aujourd'hui, on sait que tous les travailleurs nigériens et tous les villages environnants qui environnent ces mines-là, malheureusement, sont contaminés. Et il y a eu beaucoup de reportages, même faits par des télévisions et des médias français, d'autres médias français, qui montraient comment scandalisés qu'ils étaient, ils ont montré comment, malheureusement, cette gestion à l'emporte-pièce, cette gestion amateur de, mais en fait, qui était plutôt une gestion méchante de l'uranium, a créé un problème de santé et un problème de destruction de l'environnement qui est préoccupant autour d'une ville, par exemple, comme Arlit. Vous pouvez trouver, par exemple, dans l'est du Congo, toutes ces mines qui sont exploitées de façon artisanale, sans aucune norme, respect d'aucune norme, et puis une surexploitation de l'eau, par exemple, la pollution de l'eau qui est polluée avec les mines d'or, les mines de coltan, tout cela crée énormément de choses, dont le conflit, par exemple, la RDC et le Congo, a permis de mettre tout ça en valeur. Et on a constaté également en République centrafricaine que les mines d'or, l'exploitation illégale des mines d'or, créait ce problème, tout comme dans le nord du Mali, tout comme à l'époque où il y avait le problème en Côte d'Ivoire. On a vécu ça lorsque les forces nouvelles de M. Ouattara et de M. Soro étaient en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Tout cela a provoqué une destruction abominable de la nature. Et vous trouverez que ces problèmes partout, vous allez le trouver au sud du Nigeria, au sud-est du Nigeria, où sévit ce qu'on appelle le Mend, où il y a très souvent, malheureusement, des ruptures d'oléoducs qui polluent, la nappe pétrolière pollue des zones immenses. Donc, vous avez tous ces problèmes-là qui se créent lorsque des conflits ont lieu et il faudrait que les gens puissent trouver des solutions. J'ai des propositions par rapport à la gestion de la terre dans mon livre « Port Bokibon ». Eh bien, et cette proposition de gestion de la terre pourrait permettre, si vous voulez, de résorber au moins 80% des conflits en Afrique. Le problème, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se lèvent en tant que rebelles, c'est aussi le problème de l'accès à la terre. Donc, il faudrait y penser et surtout ne pas espérer que des groupes qui sont poursuivis, qui sont dans le déni des autorités installées, vont respecter les normes environnementales. Pas du tout. Ces gens-là veulent faire vite, veulent financer un conflit et n'ont donc pas le temps de créer une activité qui respecte les normes environnementales, parce que le respect des normes environnementales veut dire la capacité de se projeter dans le futur. Or, si on ne peut pas se projeter dans le futur parce qu'on est dans l'urgence, parce qu'on est en train de faire la guerre et que à tout moment on peut partir, on ne va jamais respecter les normes environnementales. Il faudrait donc que nous agissions sur les causes de ces guerres-là pour pouvoir éviter cela.
Les problèmes environnementaux engendrent des problèmes sociaux, les sécheresses, les mauvaises récoltes, etc. Cela crée un grand nombre de personnes démunies qui sont recrutées par les terroristes. Et selon vous, comment briser ce cercle vicieux ?
Pour la grande majorité des États africains, il y a un seul moyen de résorber, si vous voulez, de briser ce cercle vicieux. C'est que ces États soient véritablement indépendants. C'est le cas de tous les pays qui parlent le français et utilisent le franc CFA ou le franc comorien. Il faut que ces pays-là deviennent véritablement indépendants et que ces pays-là puissent profiter de leurs matières premières de manière autonome et indépendante et souveraine et libre, que ces pays puissent avoir leur monnaie, qui peut être une monnaie commune, communautaire, mais qui peut aussi être une monnaie nationale, de telle sorte qu'ils soient capables de prendre des décisions matures, des décisions autonomes de gestion en matière de stratégie économique. Si la Russie n'avait pas son autonomie, n'avait pas sa liberté, sa souveraineté, la Russie ne ferait pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà pourquoi les autres font tout pour la harceler de toutes parts, afin que, comme le dit le président Poutine, on puisse abattre l'ours russe, le dépecer et utiliser sa peau comme un tapis. Et les Russes, heureusement, nous montrent la voie en indiquant que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais et qu'ils se défendront toujours. Souvenez-vous des 27 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Africains ne baissent pas les bras. Ils sont toujours en train de travailler. Aujourd'hui, les panafricanistes portent le flambeau, ils portent le drapeau de la liberté et de la souveraineté en Afrique. Et ce que nous pensons, c'est que, au fond, les sécheresses, les mauvaises récoltes, tout ça, c'est très conjoncturel. C'est en fait parce que les États subissent la stratégie décrite par Brzezinski dans son livre « Le grand échiquier » à la fin du siècle dernier, aux années 1990, et qui pose comme stratégie fondamentale, l'une des stratégies les plus importantes, l'une des actions stratégiques les plus importantes du monde occidental envers contre l'Afrique, du monde occidental contre l'Afrique, c'est le chaos permanent. Il faut installer le chaos permanent, il faut créer le harcèlement permanent. Donc nous devons, la seule manière pour l'Afrique d'échapper à ça, c'est l'intégration politique, au moins sous-régionale, pour créer des États forts. Imaginez qu'on ait les États-Unis d'Afrique centrale ou l'État fédératif d'Afrique centrale qui compterait donc la CEAC. Ça fait 7 millions de kilomètres carrés, ça fait presque 300 millions d'habitants. C'est très puissant et on ne peut pas facilement harceler et déstabiliser un État comme celui-là s'il est bien organisé. L'Afrique de l'Ouest, ça ferait 5 millions et demi de kilomètres carrés, 500 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas facilement déstabiliser un tel État. Vous prenez le COMESA, l'Afrique de l'Est, ça ferait pratiquement 10 millions de kilomètres carrés, je crois environ 9 millions et demi de kilomètres carrés. Et avec ça, ils ont pratiquement 500 millions d'habitants aussi. Donc, vous voyez que ces gens-là, ils sont autour de 400 millions d'habitants aussi. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas facilement déstabiliser de tels États. L'Afrique australe, c'est à peu près 2-3 millions de kilomètres carrés et c'est à peu près 185-200 millions d'habitants. Bon, le Maghreb, c'est à peu près 4-5 millions de kilomètres carrés et vous avez autour de 200 millions d'habitants. Donc, quand vous prenez tout ça, vous voyez que c'est de très grands États si on pouvait créer des États fédératifs de ces sous-régions. Imaginez mieux encore un État continental, l'État du continent noir. Ce serait encore beaucoup plus puissant. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, le cercle vicieux, c'est l'éclatement de l'Afrique. Et c'est pour ça que, de manière vicieuse, ils sont allés faire adopter, les Européens, l'Union européenne a beaucoup soutenu l'idée de l'intangibilité des frontières, le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ils l'ont tellement soutenu à l'Union africaine, quand on passait de l'Union africaine de l'OUA à l'Union africaine, alors que l'idée de création de l'Union africaine, basculement à l'époque soutenue par, financée par Kadhafi, c'était justement de mettre fin à ce principe. Ils ont insisté pour qu'il soit maintenu parce que ça permet en fait d'avoir de petits acteurs sur lesquels ils peuvent exercer une pression insupportable qui les fait toujours craquer et qui fait que ce cercle vicieux-là existe. Donc, il peut y avoir la voie de la prospérité pour l'Afrique, la voie de la protection des environnements naturels, c'est la voie de l'intégration politique de l'Afrique. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes un petit pays comme le Tchad ou la RCA, la République centrafricaine ou, je sais pas moi, la Guinée-Bissau, vous ne pouvez pas lutter contre un envahissement des criquets. Mais si vous êtes un État qui a 500 millions d'habitants, vous avez suffisamment de cerveau, vous êtes suffisamment mieux organisé pour pouvoir anticiper sur tous ces phénomènes et savoir comment protéger la population. Donc nous espérons en même temps que ces problèmes-là, en réalité, vont pouvoir trouver une solution et que cette image de personnes démunies qu'on voit en Afrique est tout simplement une image, est tout simplement une situation entretenue par l'Occident qui exerce une prédation internationale et fait tout pour installer ces suppôts, des gens qui lui sont acquis à la tête de nos États. Et c'est la raison pour laquelle vous avez la plupart des conflits en Afrique, parce que très souvent les populations ne sont pas d'accord, tout simplement.
Les États-Unis sont le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires pendant une guerre avec des conséquences terribles. Ils ont utilisé l'agent orange au Vietnam et des armes à uranium appauvri ont été utilisées lors des bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie. Peut-on s'attendre à ce que les Américains et leurs alliés rendent un jour des comptes ?
Je pense qu'un jour ou l'autre, tous les pays qui vont utiliser des armes non conventionnelles rendront compte de cela. Pour le moment, vous n'oubliez jamais ça. Lorsque vous êtes le plus fort aujourd'hui, le président Poutine disait que la plus grosse erreur stratégique que les Américains et tactique que les Américains ont commise, c'est de croire dans les années 90, au début des années 2000, d'être devenue la seule superpuissance au monde, et d'avoir donné cette idée-là, d'avoir injecté cette idée dans l'esprit des Américains. Et du coup, ça a créé des attentes qui sont beaucoup étaient des attentes perverses, compte tenu de l'histoire particulière des États-Unis qui ont écrasé les populations natives, les populations autochtones américaines, qui ont écrasé, martyrisé les Africains qu'ils ont transportés brutalement là-bas comme esclaves et qui continuent à les martyriser sous la ségrégation et même aujourd'hui. Et que cela, c'est ça qui a fait que les Américains n'avaient plus de contrôle et pensaient pouvoir se permettre tout ce qu'ils voulaient à travers le monde. Et malheureusement, ça a créé c'est ça qui les a, qui est en train de les perdre aujourd'hui à travers cet impérialisme brutal, violent, ailleurs, et qui choisit qui doit vivre, qui doit mourir, qui doit être en paix, qui ne doit pas être en paix, qui doit se développer, qui ne doit pas se développer, alors que tous les hommes, tous les peuples ont le droit d'être en paix, de se développer et de pouvoir vivre. Donc, il se trouve que demain, peut-être que le bloc occidental sera le plus puissant. N'oubliez pas que les BRICS, c'est déjà, en attendant janvier, les BRICS, c'est déjà 40% de la population mondiale, 35% du PIB mondial, alors que l'OTAN, c'est à peine 30%. C'est 40% de la population mondiale pour les BRICS, l'OTAN, c'est à peine 8%. La puissance installée industrielle, les BRICS, c'est pratiquement 55-60%, l'OTAN, ce n'est même pas 25%. Donc, tout ça fait qu'il y a un basculement, avec surtout la dédollarisation en cours et avec le programme de la route et de la ceinture et le rapprochement russo-chinois. Cela fait que le monde va basculer. Demain, c'est une autre puissance, la première puissance internationale, et qui pourra donc exiger aux Nations Unies, qui ne sont plus manipulées par les États-Unis, que les gens rendent compte de tout ça. Vous parlez du Vietnam, vous parlez des armes nucléaires, j'étais sur le Japon, de l'argent orange au Vietnam et des armes à l'uranium appauvries qui ont été jetées sur la Yougoslavie. Mais vous avez oublié, par exemple, que le napalm a été utilisé par les Français au Cameroun. Moi, je n'ai pas de village parce que il a été rasé par la France, brûlé totalement au napalm. Donc, tous ces pays auront quelque chose, auront des comptes à rendre. La seule chance qu'ils auront, c'est que les pays des BRICS et les Africains ne sont pas des pays de gens rancuniers, ne sont pas des pays de gens qui sont méchants ou des gens qui sont brutaux et violents. C'est le président Sarkozy qui dit que le peuple le plus violent, le plus brutal, c'est le peuple européen. C'est pas les autres peuples du monde. Donc, la chance qu'ils auront, c'est que ces peuples, les autres peuples des BRICS, les peuples africains ne sont pas rancuniers, ne sont pas brutaux, ne sont pas violents. Mais au moins, pour l'histoire, il faudra qu'ils rendent compte et il y aura certainement des sanctions appropriées le moment venu.
Des obus à l'uranium appauvri ont également été fournis à l'Ukraine. Pourquoi les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN, connaissant les conséquences de leur utilisation pour la santé humaine et l'écologie, agissent-ils de la sorte?
Les États-Unis et les pays de l'OTAN le font parce qu'ils croient qu'ils peuvent le faire. Je vous parlais tout à l'heure de l'erreur stratégique et tactique que révèle le président Poutine. Ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde et donc ils peuvent tout se permettre dans le monde. Alors qu'en réalité, dans un monde normal, dans un monde où les leaders ne sont pas les personnes les plus violentes de l'histoire de l'humanité, eh bien, ce qui devait se passer, c'est que c'est eux qui devaient appeler, connaissant très bien les conséquences de toutes ces armes-là, l'uranium appauvri, par exemple, connaissant les conséquences sur l'humanité, sur les connaissances, connaissant les conséquences sur la santé des hommes et sur les écosystèmes naturels, c'est eux qui devaient être les premiers à dire ne faites pas ça et de veiller à ce que personne ne le fasse. Mais ils peuvent se le permettre eux. Parce qu'ils estiment que, ils vont le faire, il n'y aura personne qui les empêchera de le faire. Mais attention, parce qu'un jour, il y aura toujours le retour du bâton. Vous ne pouvez pas impunément essayer de détruire la nature que vous n'avez pas créée, que vous ne pouvez pas créer, en croyant que cela n'aura pas de retour. Il y aura un jour un retour de bâton. Et nous le regrettons parce que les peuples des BRICS et les peuples de l'Afrique sont des peuples qui ont pour première valeur, la vie, le respect de la vie. Et nous respectons tellement la vie que nous estimons qu'il ne faut pas aller à ces extrêmes qui sont totalement inutiles. Lorsque vous prenez sur vous d'utiliser des armes à l'uranium, alors que vous connaissez les conséquences depuis 1945 en Nagasaki et à Osaka, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On a le droit de se demander à quoi vous pensez, en quelle matière vous êtes fait. Est-ce que vous êtes fait avec de la même façon que les êtres humains de tous les autres peuples du monde sont faits? Donc, c'est des questions que tout le monde se pose. Et on croit que les Américains et l'OTAN, aujourd'hui, sont peut-être dans un tel désespoir de devoir perdre leur leadership international qu'ils font tout et n'importe quoi. Je rappelle à tout le monde que jusqu'au XVIIIe siècle, la première puissance économique du monde, c'était la Chine. Ce n'était pas, contrairement à ce qu'ils racontent n'importe où, ce n'était pas la France. La France était le leader de l'Europe. Et l'Angleterre a pris le relais au XIXe siècle. Les Américains ont pris le relais au XXe. Mais ils n'étaient pas la première puissance économique du monde, c'était la Chine. Et donc aujourd'hui, si par les armes, ils ont conquis le reste du monde, il est fort possible que les autres peuples qui sont en train d'évoluer, par les armes, pourront leur faire respecter le reste du monde. Est-ce que c'est ça la bonne situation où tout le monde devra sortir les armes et nous commencer à nous tirer les uns sur les autres comme si nous étions des ivrognes qui ne savent pas qu'il faut faire attention et protéger la vie? Tous ces jeunes gens que nous envoyons en guerre, qui auraient pu être des médecins, des scientifiques, des ingénieurs, des juristes, des acteurs sociaux, des philosophes, etc., des économistes, des journalistes, des acteurs de cinéma, des comédiens, des sportifs, des artistes de tout genre. Avons-nous besoin de les priver de leurs rêves? Simplement parce que un certain nombre de personnes d'un certain âge qui ne vont jamais se donner ne serait-ce que des gifles ou des coups de poing n'arrivent pas à s'entendre pour une marche du monde qui soit une marche vers la paix et détruisent la vie de milliers et de milliers de jeunes gens. Quand on regarde de centaines de milliers de jeunes gens chaque année, est-ce normal d'avoir 500 000 morts en Ukraine simplement parce que les gens n'arrivent pas à respecter un certain nombre de dispositions historiques, un certain nombre de dispositions de sécurité qui concernent une région particulière? C'est quelque chose de terrible et nous espérons que tout ça s'achèvera un jour.
Des représentants de la Palestine et d'organisations internationales parlent de l'utilisation active par Israël d'obus au phosphore blanc dans la bande de Gaza qui brûle tous les êtres vivants. Quelles peuvent être les conséquences de leur utilisation pour la région et qui doit, et surtout, peut demander à Israël d'y mettre fin?
C'est tout simplement écœurant pour moi qui suis Camerounais d'imaginer qu'on puisse utiliser des obus au phosphore blanc. Parce que ça me rappelle le napalm que les Français ont utilisé au Cameroun et qui a brûlé des centaines et des centaines de villages et des dizaines de villes. Ça fait mal, c'est inhumain. C'est inacceptable. C'est quelque chose qui restera dans l'histoire comme une tache indélébile et comme quelque chose qui suscitera certainement beaucoup d'interrogations indignées de la part de nos descendants. Je pense que des conséquences peuvent être une escalade parce que imaginez que d'autres pays dans la région ou impliqués dans la région se mettent à utiliser non seulement du phosphore blanc, mais d'autres armes non conventionnelles. À quoi serons-nous confrontés? Qu'est-ce que nous vivrons? Je crois qu'il faut que ceux qui fournissent les matières premières pour la production de ce genre de choses et les composantes à Israël lui demandent d'arrêter et cessent de fournir. Je pense également que nous devons tous avoir les larmes aux yeux quand nous regardons tout ça. Après Nagasaki, après les lance-flammes qui ont tellement endeuillé les familles soviétiques, allemandes, et toute l'Europe de l'Est, ainsi que toute l'Afrique du Nord à l'époque, et toutes les familles d'Afrique occidentale française et équatoriale française qui sont allées libérer Paris, même si les Français n'ont jamais su être simplement reconnaissants en disant merci. C'est pour vos auditeurs et pour vos lecteurs. Hein. Ce sont les toutes parties de la ville de Douala où existe encore le camp maréchal Leclerc, sur une avenue qu'on appelle l'avenue du 27 août 42. Ce sont ces troupes-là qui sont allées libérer Paris. C'est pour ça qu'en France, De Gaulle, qui était le président, n'a jamais été créé maréchal. C'est pour ça que c'est Leclerc qui est parti de Douala avec le grade de commandant, alors qu'en réalité, il était capitaine, mais il fallait qu'il soit l'officier le plus gradé pour pouvoir commander cette troupe-là. Il s'est mis lui-même les épaulettes de commandant et puis finalement de colonel. Et c'est comme ça donc qu'il va aller de Douala en passant par le Tchad et puis la Libye, entrer par Toulon, il va aller libérer Paris. C'est pour ça qu'il est, lui, il a été fait maréchal et pas de Gaulle, parce que c'est lui qui a libéré la capitale française avec les soldats venus du Cameroun et dont les rangs se sont grossis à travers leur marche en Afrique. Nous devons rappeler l'histoire, c'est important, et nous devons, en nous rappelant l'histoire, l'agent orange au Vietnam, les lance-flammes pendant la Deuxième Guerre mondiale et même pendant au Vietnam également, et ici et dans les pays comme le Cameroun ou Madagascar, la bombe nucléaire au Japon, tout ce qui a été fait en Yougoslavie avec les armes à l'uranium appauvri, nous devons penser à tout ça et demander à Israël d'arrêter. Et il faudrait qu'il y ait une grande conférence internationale pour qu'on règle définitivement ce problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, tous les États doivent exiger qu'aux prochaines réunions de l'ONU, la Palestine soit représentée en tant qu'État, plus en tant qu'observateur, mais en tant qu'État, en tant que membre plein. Si l'ONU ne veut pas l'accepter, le bloc occidental ne veut pas l'accepter, que les autres pays les laissent tenir l'Assemblée générale ou les laissent continuer à gérer tout seul les institutions de l'ONU. Ce sera une action non pas seulement pour le soutien à la Palestine, mais pour le soutien à la justice, pour le soutien à la vie, pour le soutien à la paix mondiale. Nous avons besoin de paix. Et je crois que ce qui est en train de se passer avec cette opération sur Gaza, j'ai dit depuis le premier jour que ça n'avait rien à voir avec les problèmes de hausse, et encore que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre, il commence depuis très longtemps, en réalité depuis 1903. Lors de la conférence qui décide de l'implantation d'un foyer juif en Palestine. D'ailleurs, le bail devait s'achever le 31 octobre 2023. Lisez bien ces informations. Le bail devait s'achever le 31 octobre 2023. Ça veut dire que les Palestiniens auraient dû retrouver leur terre. Mais toujours est-il que le fond du problème depuis le premier jour, je l'ai dit, c'est l'exploitation du gaz qui est au large de Gaza. Ça n'a jamais été autre chose. Ça a toujours été l'exploitation du gaz au large de Gaza et des hydrocarbures de manière générale qui y sont. Mais ça a également été le fait que le tunnel qu'on veut faire pour concurrencer le canal de Suez, que ce canal-là devrait sortir par Gaza. Et si on le fait sortir par Gaza, il faut bien que l'État d'Israël contrôle Gaza. Parce que c'est un canal que le bloc occidental veut mettre en place pour faire concurrence au canal de Suez et pour réduire les capacités financières de l'Égypte, mais en même temps anticiper sur le fait que l'Égypte va appartenir aux BRICS et donc passe dans l'autre camp. Voilà le fond du problème que j'ai toujours évoqué et que je rappelle aujourd'hui. Et vous allez bien voir que déjà un accord a été trouvé pour exploiter le gaz de Gaza et ces jours-ci. Et en plus, le canal, on a commencé sa construction depuis février. Si nous suivons ce qui se passe dans le monde, eh bien, nous allons mieux comprendre qu'en réalité, la plupart du temps, tout ce qui est sous nos yeux et qu'on nous essaie de nous faire avaler, les guerres de religion, la colonisation, ce sont des problèmes importants, mais très souvent, le problème de fond est ailleurs. Gaza, c'est d'abord le problème du gaz, des hydrocarbures au large de Gaza, que certains veulent contrôler, mais c'est également le canal qui est en train d'être percé et qui doit déboucher par Gaza. Et vous comprenez donc que pour pouvoir exploiter le gaz là et tout ça, il faudra construire des ports. Et ce tunnel, ce canal va donc sortir par là, concurrencer le canal de Suez, et il faut donc annexer totalement le territoire de Gaza.
C'était Yamben Timba, économiste, écrivain et philosophe camerounais pour Spoutnik Afrique. Il nous a livré ses impressions à l'occasion de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue, souvenez de régler votre poste sur le 99.5 FM depuis Bamako. Le 4 novembre dernier, c'était la fête de l'unité nationale en Russie. Durant cette journée fériée, et célébrer le peuple russe qui, au-delà de ses différences sociales, est uni pour protéger la Russie. Cette date commémore également la révolte populaire qui a expulsé de Moscou les forces d'occupation polono-lituaniennes au XVIIe siècle, marquant au passage la fin du temps des troubles et des interventions étrangères en Russie. À l'occasion de cette journée, l'exposition internationale Russie a ouvert ses portes au parc des expositions de Moscou. De nombreuses entreprises russes y sont présentes pour exposer leurs compétences dans leurs domaines respectifs. Toutes les régions du pays, y compris les nouvelles régions de Kherson, Zaporijjia, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ont fait découvrir aux visiteurs leur culture, leurs traditions locales ainsi que leur savoir-faire. Cet événement grandiose se poursuivra jusqu'au 12 avril 2024, offrant une plateforme pour mettre en lumière les réalisations significatives de la nation dans divers secteurs économiques. Au cours des trois premiers jours de l'exposition, elle a été visitée par près de 450 000 personnes. Les visiteurs africains ont également manifesté un grand intérêt pour l'événement. Une délégation d'hommes d'affaires d'Éthiopie s'est rendue sur place pour voir les réalisations russes. Daniel Wadkole, président de l'Association éthiopienne de fabricants de produits pharmaceutiques, faisait partie de la délégation de ce pays africain qui intégrera les BRICS à partir du 1er janvier 2024. Au micro de Spoutnik Afrique, il a livré ses impressions de l'exposition Russie et dans quel domaine Moscou pourrait aider Addis Abeba. Écoutons-le tout de suite. La délégation éthiopienne est la première délégation étrangère à participer à cet événement. Pourquoi avez-vous jugé important que votre pays participe ?
Cette expo est très importante et nous sommes très enthousiastes. Nous avons vu ici l'histoire de la Russie en matière de technologie, d'industrie, de culture, de commerce. Nous avons vu comment la Russie progresse et se développe. C'est donc une excellente occasion pour nous d'apprendre de la Russie, comment elle se développe, comment elle développe la technologie, comment elle renforce les capacités de ses citoyens. C'est une grande expérience et un grand plaisir d'être ici. En tant que premier délégué étranger à cette expo, mon équipe et moi-même sommes très enthousiastes et très heureux d'y participer.
Et comment voyez-vous la coopération entre la Russie et l'Éthiopie dans le secteur industriel ? Et que pensez-vous que la Russie puisse offrir au secteur industriel du pays ?
Vous savez que la coopération entre l'Éthiopie et la Russie est très ancienne. Elle s'est développée et doit encore se développer. L'Éthiopie a besoin d'un secteur industriel important pour mettre en œuvre son économie en pleine croissance. Pour cela, la contribution de la Russie est très importante et le secteur industriel éthiopien et le secteur industriel russe devraient unir leurs efforts pour développer l'industrie éthiopienne. En outre, l'Éthiopie est désormais la porte d'entrée de l'Afrique. C'est le bon moment pour les entreprises industrielles russes pour venir investir afin que les deux pays en bénéficient.
Quels sont les projets communs en cours entre les deux pays ?
Je pense qu'il devrait s'agir de secteurs industriels tels que la fabrication et la technologie, les technologies de l'information et la fabrication de médicaments, que je représente. Je pense donc que nous avons beaucoup de choses pour coopérer dans ce domaine.
Pouvez-vous nous parler un peu du secteur pharmaceutique et de son évolution entre la Russie et l'Éthiopie ?
L'industrie pharmaceutique éthiopienne n'en est qu'à ses débuts. Je pense donc que si les entreprises russes viennent y investir, elles en bénéficieront. L'Éthiopie est un pays de plus de 120 millions d'habitants. Il y a un grand marché, un grand potentiel. Mais il n'y a qu'un nombre limité d'entreprises qui y travaillent. C'est donc le bon moment pour les entreprises russes pour venir en Éthiopie pour investir et en tirer profit, ainsi que pour l'Éthiopie et même au-delà de l'Afrique, et même pour la plupart des pays africains.
L'Éthiopie rejoindra les BRICS dans 2 mois. Comment voyez-vous l'impact de cette adhésion sur le développement global de l'Éthiopie et sur les relations entre la Russie et votre pays ?
Oui, c'est une grande opportunité pour l'Éthiopie, car de grands pays rejoignent les BRICS. L'Éthiopie en bénéficie à bien des égards, que ce soit en termes de capacité, d'infrastructure, de développement, de banque et de financement, de soutien financier. C'est énorme. L'Éthiopie en bénéficiera absolument et je pense que ce sera une grande opportunité pour l'Éthiopie et probablement pour les industries éthiopiennes.
C'était Daniel Wadkole, président de l'Association éthiopienne des fabricants de produits pharmaceutiques pour Spoutnik Afrique. Il a partagé ses impressions de l'exposition Russie, qui a ouvert ses portes le 4 novembre dernier, et présenté les domaines dans lesquels la Russie pourrait aider l'Éthiopie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Notre émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. La 34e édition du Tour du Faso a rendu son verdict le 5 novembre dernier à Ouagadougou. 71 coureurs venus de 11 pays d'Afrique et d'Europe se sont affrontés sur 10 étapes qui traversaient les villes et les campagnes du Burkina Faso. Après 1187 km de course, les participants ont franchi la ligne d'arrivée à Ouagadougou devant le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui était venu assister à la dernière étape du Tour du Faso. Selon le service d'information du gouvernement, une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été allouée par la présidence du pays pour récompenser par des primes les coureurs. C'est le sportif burkinabé Paul Domon qui a remporté la course devant le Belge Roger Wouters. Et c'est le Marocain Achraf Eddoghmi qui complète le podium final. Au micro de Spoutnik Afrique, Paul Daumont, le vainqueur du Tour du Faso, nous a livré ses impressions. Comment évaluez-vous votre résultat à cette 34e édition du Tour du Faso? Et qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous auriez pu faire mieux?
Alors je dirais que le résultat de cette année, pour ma part, est très satisfaisant puisque j'ai remporté le classement général. Et en termes d'amélioration, je ne pense qu'il n'y a rien que j'aurais pu mieux faire parce que j'ai atteint mes objectifs et même au-delà de mes objectifs. Donc je pense que de ce point de vue-là, je n'aurais pas pu faire mieux que justement lors de cette 34e édition.
Depuis le début du Tour du Faso en 1987, seuls deux sportifs ont réussi à remporter la compétition deux fois. Pensez-vous être en mesure de rejoindre ce club fermé de double vainqueur?
J'espère bien en tout cas pouvoir récidiver encore parce que j'aimerais bien ressentir à nouveau cette joie. Et dès à présent, je me prépare mentalement et physiquement pour essayer d'atteindre ce record-là et voire même de le dépasser. J'espère avoir encore la santé et l'énergie nécessaires pour atteindre cet objectif car je sais que c'est un challenge de plusieurs années qui m'attend. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut regarder à court terme mais vraiment à long terme.
Où est-ce que vous vous entraînez? Et combien de temps y accordez-vous? Qu'est-ce qui vous manque?
Alors je m'entraîne principalement à Ouagadougou, aux alentours de Ouagadougou, sur les différents axes routiers. J'y consacre environ 6 jours sur 7. Et à peu près 4 heures de temps par jour. Maintenant, ce qui nous manque réellement actuellement, je peux dire qu'à mon niveau, c'est, on va dire, un soutien, on va dire, financier, parce que à ce niveau-là, il y a énormément de dépenses et de demandes, c'est-à-dire en termes d'alimentation, il y a des demandes. Il y a aussi le suivi médical qu'il faut pouvoir se payer parce qu'arriver à ce niveau-là, il faut avoir aussi un docteur, on va dire, personnel qui puisse à tout moment vous suivre afin de faire des examens, des analyses sanguines, etc. ainsi qu'un kiné afin de pouvoir ménager justement les muscles au fur et à mesure des jours. Voilà, quelqu'un qui puisse vous masser, vous apprendre les techniques de récupération, les gestes de récupération. Et également, je pense aussi peut-être le matériel, parce que voilà, des fois, on a besoin d'une salle de sport pour pouvoir bien s'entraîner. Et des fois, c'est un peu compliqué aussi d'avoir le matériel sur place en termes de pièces de vélo, pièces de rechange. Donc, je pense que c'est principalement ce qui nous manque. Aussi, pour répondre à la question 3, ce qui nous manque, ce serait surtout aussi des stages et d'entraînement et de perfectionnement, parce que j'en ai bénéficié au début de ma carrière et j'ai vu que ça m'a beaucoup aidé. Et sur le continent africain, les quelques coureurs qui ont réussi à vraiment obtenir de grands résultats sont ceux qui sont passés par les stages d'entraînement. Donc on sait que voilà, les stages de détection et d'entraînement, donc ce sont des passages obligatoires dans la vie d'un cycliste, surtout si on veut avoir des performances au haut niveau. C'est vraiment nécessaire de pouvoir régulièrement aller dans un autre pays pour s'entraîner, changer d'air, se mettre dans une bulle, on va dire, psychologique, afin de s'entraîner et de se donner au maximum.
Quelle course voudriez-vous encore gagner pour pouvoir dire que tous vos rêves d'athlète se sont réalisés? Et pourquoi?
Je dirais que pour le moment, au niveau où je suis, je dirais qu'il me manque à mon palmarès une médaille d'or au championnat d'Afrique. À ce moment-là, je pourrais dire que j'aurais atteint mes rêves en tant qu'athlète africain parce que voilà, j'ai pu remporter le championnat national à plusieurs reprises de mon pays. J'ai pu remporter le tour international du Burkina Faso qui est de mon pays. Et maintenant, j'aimerais bien remporter voilà, une médaille d'or au championnat d'Afrique pour, on va dire, couronner tous mes résultats sur le continent africain.
Saviez-vous que le vainqueur de la première édition du Tour du Faso en 1987 a été le coureur cycliste soviétique Igor Loushenko? Connaissez-vous des coureurs cyclistes russes modernes? Et voudriez-vous concourir contre des athlètes russes aux prochaines éditions du Tour du Faso?
Alors oui, j'avais eu justement l'information que c'était un Russe qui avait remporté la première édition du Tour du Faso, mais je ne connaissais pas l'année. J'ai eu l'occasion de courir avec un coureur russe l'année passée en Malaisie, qui fait partie de l'équipe Astana Kazakhstan. Il s'appelle Gleb Siridza. C'est un coureur qui est très puissant, très rapide, qui fait partie d'une des meilleures équipes du monde. Et j'aimerais bien voilà, avoir l'occasion de courir encore avec ce genre de personnes-là parce que Ce sont des modèles inspirants. Ce sont des gens qui sont remplis de bonne volonté, de beaucoup de détermination. Donc ce serait bien aussi d'avoir ce mélange culturel afin de pouvoir ensemble se tirer vers le haut. Et bien sûr, j'aimerais bien que la Russie revienne autour du Faso parce que c'est une nation de cyclisme exactement. Mais ils n'ont pas l'occasion de souvent venir en Afrique. Et on aimerait bien le Burkina Faso innover, justement en faisant venir la Russie autour du Faso.
C'était Paul Daumont, vainqueur du Tour international du Faso 2023 pour Sputnik Afrique. Il nous a livré ses impressions à l'issue de la dernière étape courue à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Sputnik Afrique.